Vous écoutez Féminicity Talk, le podcast qui interroge la ville au prisme du genre. Nous sommes l'association Féminicité, un collectif féministe, mixte et intersectionnel.
En fait, ce que je veux, c'est qu'on nous voit,
nous entende.
C'est d'être là, en fait, tout simplement.
En France, la mixité à l'école n'est légalement obligatoire que depuis 1976 et la loi Habit. Même si c'était devenu peu à peu la norme dans les années 1960, l'obligation formelle de mélanger les filles et les garçons n'a même pas 50 ans. Dans l'équipe de Féminicité, forcément, ça nous interpelle. Parce que, encore aujourd'hui, le milieu éducatif reproduit les modèles patriarcaux qui façonnent les identités distinctes des filles et des garçons, en définissant différents rôles selon le genre. L'école, c'est un espace de construction des personnes. On y est dès le plus jeune âge et c'est le premier espace en dehors de la famille qu'on est amené à fréquenter aussi longtemps. L'école, c'est à la fois un endroit où on se construit socialement, avec et par rapport aux autres, c'est-à-dire les gens de notre âge, mais aussi tous les adultes qui y travaillent. C'est aussi se construire dans l'espace. La cour est centrale dans ce processus car c'est dans cet espace que les enseignants et enseignantes tendent à intervenir le moins possible et donner plus de liberté aux enfants. La cour est donc un lieu privilégié où on peut voir émerger clairement les attitudes de genre stéréotypées adoptées par les filles et les garçons. Mais on y reviendra plus tard.
Au-delà de la construction de soi, l'école c'est aussi un espace particulier parce que c'est un lieu de mixité qu'on pourrait qualifier de captive. C'est-à-dire un espace où il y a des filles et des garçons qui se côtoient au quotidien pendant au moins 15 ans. C'est même pour la plupart l'une des seules périodes aussi longues de la vie où il y a une vraie mixité quotidienne en dehors du foyer. Parce que, très souvent, le monde professionnel est relativement genré et souvent peu mixte selon les métiers. C'est l'INSEE qui le dit. En 2019, en France, les femmes représentent 87% des infirmières et 97% des secrétaires. De l'autre côté, 99% des maçons, plombiers et électriciens sont des hommes, tout comme les directions de 38 des 40 entreprises du CAC 40 sont dirigées par des hommes. Du coup, l'école, c'est un des rares lieux de contact et d'apprentissage de la mixité. De la mixité, mais aussi plus globalement de l'altérité, du vivre ensemble et du respect, en théorie. Parce qu'évidemment, s'il suffisait de mélanger les garçons et les filles pour créer de l'égalité, ce podcast n'existerait pas.
Prenons la définition littérale de la mixité. Le Larousse nous dit que la mixité correspond au, je cite,
« caractère d'un groupe, d'une équipe, d'un établissement scolaire comprenant des personnes des deux sexes ».
Chez Féminicité, nous trouvons que c'est un peu court et très imprécis. En tout cas, pour nous, la mixité, déjà, c'est une représentation équilibrée des genres. Pour être très clair, ce n'est pas parce qu'on a une femme au milieu de 99 hommes qu'on peut dire qu'on est dans un espace mixte. La mixité, c'est l'équilibre. Et puis la mixité, ce n'est pas le fait de vivre côte à côte et de s'ignorer potentiellement. C'est un processus de se parler, d'échanger, de vivre ensemble, et pas à côté mais séparément. Et ce processus de mixité, il est sans cesse travaillé, en évolution permanente. Et surtout, il n'est pas du tout spontané. Il faut le construire activement. Ici, on va s'appuyer sur une hypothèse de la sociologue et géographe Edith Maria Jules, celle que la violence, et ici spécifiquement la violence de genre, vient notamment du fait qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se fréquente pas à égalité, voire qu'on a été séparé. Et pour Edith Maria Jules, dans un contexte patriarcal où tout ce qui est considéré comme féminin est généralement dévalorisé, moqué, combattu, c'est cette séparation qui est à l'origine des violences. Et elle fait l'hypothèse qu'en jouant ensemble, en se rencontrant réellement, en apprenant à se respecter, on peut faire refluer les violences. Et voilà pourquoi se concentrer sur les relations entre les filles et les garçons à l'école, c'est déjà essayer de contrer les futures violences de genre.
Mais alors la question, c'est comment on produit cette rencontre au quotidien ? Comment concevoir, organiser, animer l'espace pour que la mixité entre filles et garçons se produise réellement ? Pour essayer d'y répondre, avec l'équipe de Féminicité, on a décomposé notre cheminement en plusieurs champs. D'abord, qu'est-ce qui se joue exactement dans les cours d'école en termes d'apprentissage genré des codes sociaux et des codes spatiaux ?
Ensuite, comment peut-on transformer l'école en laboratoire pour créer une société plus égalitaire, moins sexiste, moins homophobe et moins validiste ? Comment la réorganisation des espaces permet d'orienter les comportements ? Est-ce que changer l'organisation de l'espace, les formes du bâti, les classes, les cours, le mobilier, est-ce que tout ça suffit réellement pour influencer les usages, les comportements et les relations des enfants qui s'y trouvent ? Quels sont les autres outils dont on peut se saisir ? Et enfin, une dernière question qui nous taraudait un peu. Est-ce que la mixité est la solution à tout, tout le temps ? Est-ce qu'on peut imaginer de nouveaux espaces de non-mixité à l'école ?
Alors, dans cet épisode, on s'est beaucoup appuyé sur le travail d'Edith Marie Jules, une sociologue et géographe française qui s'est spécialisée sur les enjeux de mixité dans les espaces de loisirs et les espaces scolaires. Dans le cadre du bureau d'études qu'elle a créé, la ROB, elle accompagne des écoles et des collectivités un peu partout en France pour les aider à fabriquer des espaces plus mixtes. Pour préparer cet épisode, nous nous sommes largement imprégnés de ses travaux et nous sommes aussi allés la rencontrer. Vous entendrez d'ailleurs des extraits de l'entretien dans l'épisode. Beaucoup d'éléments que vous entendrez s'appuient sur son travail, ses hypothèses, ses observations, ses conclusions, mais pas seulement, parce qu'il y a évidemment d'autres chercheurs, chercheuses et professionnels à s'être penchés sur le sujet des espaces scolaires.
Dans un premier temps, et parce qu'on va ici parler d'espace, il est important de commencer par une échelle très générale. La cour d'école, c'est avant tout un espace où les enfants jouent entre eux, un lieu commun à toutes les générations, surveillé par des adultes. Dans son travail de sociologue-géographe, Edith Marie-Jules commence par l'observation de la cour et constate souvent que l'espace de la cour est scindé en plusieurs parties distinctes. Il se divise généralement en trois ou quatre zones. Celle du foot, qui occupe la majorité de l'espace, celle des jeux de billes et de cordes, celle des jeux de rôle, et, plus en marge, celle des secrets. Aussi, la chose qui frappe immédiatement quand on observe une cour d'école en action, c'est l'inégale répartition de l'occupation de l'espace de la cour. Les installations dites classiques, avec d'un côté le terrain de foot, les tables de ping-pong et de l'autre côté des bancs ou une marelle, ne permettent pas une mixité entre les élèves. Dans son travail, Edith Marie-Jules souligne que très souvent, le terrain de foot est central par rapport à toute autre installation. Par sa taille, sa place et son utilisation quotidienne et quasi exclusivement masculine, il oblige toutes les autres activités à se retrouver en marge du centre. La construction même de la cour d'école, avec ses centralités, ses marginalités et sous surveillance, ne permet pas aujourd'hui de créer une mixité entre les élèves. L'espace influe sur les pratiques, c'est-à-dire les jeux, les attitudes des enfants, et donc sur la mixité entre les élèves, à la fois sociale et du point de vue du genre. Et ça, c'est quelque chose dont les enfants ont conscience, et ils l'expriment très clairement dans les ateliers qu'Edith Marie-Jules anime en classe.
En fait, et donc toutes ces questions, donc elles vont dire qu'elles n'ont pas de place pour elles. Elles diront pas qu'il y a trop de place pour les garçons. Elles diront qu'ils prennent toute la place. Elles diront qu'elles peuvent pas traverser, qu'elles prennent le ballon. Cette relégation à l'espace de bord, donc c'est une et le fait aussi qu'elles ne puissent jamais faire sujet. Donc elles vont me dire on n'a pas de place ou ils prennent toute la place ou on peut pas se reposer, on peut pas avoir d'endroit calme. Et puis elles diront très vite. Et puis ce qu'il y a aussi c'est que les garçons ils veulent pas jouer avec nous. Ils jouent entre eux. Et ça, c'est un processus à comprendre, en fait, que la non-mixité, il suffit qu'il y ait un groupe qui dise « Non, je veux pas jouer avec toi » pour que les filles se retrouvent entre elles.
Au-delà de la séparation spatiale, on observe aussi une séparation genrée des activités. Dès l'école primaire, Edith Marie-Jules observe une hiérarchisation des jeux selon les genres. Les activités dites masculines et adoptées très majoritairement par les garçons, souvent des jeux de ballon ou d'expression de la force, domine très largement l'espace de la cour dans un rejet de ce qui est considéré comme féminin. D'autre part, les activités dites féminines, adoptées majoritairement par les filles, sont des activités plus calmes, plus statiques et beaucoup plus dans des jeux de rôle. Pour reprendre l'exemple du terrain de foot, qui est central, cet espace ressort comme lieu d'exclusion et de découpage genré de l'espace. Le foot apparaît ici comme jeu de garçon, où d'un côté les filles ne sont pas invitées à jouer, et d'un autre côté, elle peine à s'imposer dans cette centralité pour proposer autre chose. Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction de l'épisode, la mixité n'est pas un automatisme, mais se présente plutôt comme un processus qui se construit. Évidemment, la première étape, c'est de sensibiliser les adultes à ce sujet, et puis d'aborder le sujet avec les enfants, à leur hauteur, pour les amener à réfléchir sur elles et eux, et sur les autres. On poursuit avec des phases d'observation, puis on propose des évolutions, avec des changements temporaires, et on observe comment les pratiques évoluent.
Il est important de rappeler tout de même que si jusqu'ici nous nous concentrons sur les cours d'école primaire, c'est parce que c'est ici que tout débute. Le rapport au corps, à l'espace et à la mixité n'est pas du tout le même au collège. Les usages se font plus contraints. En effet, en grandissant, le corps a moins de liberté dans la cour. Le rapport de domination se fait plus direct et parfois même plus violent, par des attaques verbales, voire physiques. Une tenue ou un corps qui sortirait de la norme dominante donne lieu à plusieurs formes de harcèlement que nous avons pour un grand nombre d'entre nous, et surtout les filles, vécues. On observe un glissement du rapport de domination vers une domination plus physique, aussi plus virulente quant au langage utilisé pour discriminer filles et garçons dérogeant au code de la virilité. Cela passe par des insultes sexistes ou à caractère homophobe, transphobe, où les mots qui sont ici choisis peuvent aboutir également à des violences physiques.
Les comportements sexistes, homophobes et transphobes à l'adolescence découlent des espaces favorables où ils ont pu se former au fil du temps, y compris des espaces physiques comme les cours de récréation. C'est un des points clés de notre propos. Tout se passe quelque part, et comme on l'a évoqué au début de l'épisode, nos 15 premières années d'école sont formatrices et nous inculquent des pratiques qui se retrouvent attachées à certains espaces. Ici, de la cour de récréation préfigure les lieux extérieurs et l'espace public au sens large. La cour de l'école, c'est l'espace public des enfants à hauteur d'enfant. Les pratiques qui y prennent place, les rapports de hiérarchie spatiale entre les filles et les garçons façonnent un sentiment de légitimité ou d'illégitimité à être présent et actif dans l'espace collectif. L'occupation de l'espace est une ressource, un capital si on reprend les termes du sociologue Pierre Bourdieu. Le capital spatial, ce serait se sentir légitime à être présent, mais surtout présente sur l'ensemble des lieux, que ce soit de la cour, mais aussi de la ville. Réduire l'espace, ou le limiter aux marges, c'est aussi affaiblir ce sentiment de légitimité et la possibilité des pratiques, assurant la domination des hommes sur les femmes.
Et ce qu'a observé Edith Marie-Jules dans son travail, c'est un décrochage spatial chez les filles. Ce décrochage spatial, majoritairement féminin, elle le considère comme le pendant du décrochage scolaire, qui est un phénomène plutôt généralement masculin. Elle émet l'hypothèse que ces décrochages sont une manifestation d'appartenance à un genre. D'un côté, les codes de la virilité classique valorisent chez les garçons le conflit, la force, la résistance face à une autorité, bref, une incitation à être une forte tête insolente qui affirme son caractère et qui peut aller jusqu'à sortir du système scolaire, avec un décrochage scolaire. Et d'un autre côté, ce qui est valorisé chez les filles, ce sont plutôt des qualités de discrétion, de compromis, d'effacement, voire même d'obéissance. Bref, on leur fait comprendre qu'elles n'ont pas la même place que les garçons, au double sens symbolique et spatial du terme, et elles finissent par plier, par s'y conformer. Et ce qu'explique Edith Marie-Jules, c'est que ce phénomène de décrochage spatial, c'est un processus dans la durée, où, en fait, à force de n'avoir de place nulle part, ou d'être reléguées aux marges pendant toute leur enfance, les filles, arrivées à l'adolescence, renoncent à occuper les centralités spatiales. À force de ne pas être soutenues et encouragées à occuper les espaces collectifs, elles y renoncent petit à petit. Elle décroche littéralement de l'espace pour aller jusqu'à disparaître. Et ce décrochage se prolonge dans leur vie de jeune adulte, de femme, par l'usage qu'elles font des espaces publics, où elles ne font que passer, où les femmes sont rarement statiques et rarement en groupe. Et on vous renvoie ici à notre premier épisode sur les aménagements inclusifs. Le phénomène n'est pas irréversible, mais il est nécessaire d'agir spatialement dès le plus jeune âge pour que les filles se sentent légitimes et à égalité.
Maintenant que nous avons éclairé les rapports de domination qui se jouent dans la cour, quelles solutions pour créer de la mixité ? Dans cette partie, de nouveau, on va s'appuyer sur le travail quotidien d'Edith Marie-Jules avec les établissements qu'elle accompagne. On va voir comment la cour d'école peut être un laboratoire du changement. Comme on l'a dit plus tôt, la cour d'école est un microcosme social. C'est une sorte de mini-société composée d'enfants et d'adultes où la mixité n'est pas automatique. Ça fait donc de la cour d'école un laboratoire idéal pour expérimenter des façons d'avoir plus de mixité et de liens entre filles et garçons. Une chercheuse suédoise, Maria Ronlund, en étudiant des récits d'enfants sur leur pratique de la cour de récréation, a montré que les cours avec une plus grande variété d'espaces et d'éléments favorisent la création de diverses formes d'expression de l'identité de genre par rapport aux cours avec une faible diversité d'espaces.
Si on revient à notre laboratoire, la première étape, c'est de travailler sur les consciences, de sensibiliser et de fabriquer le sujet auprès des enfants. Dans son livre, Edith Marie-Jules développe la méthodologie qu'elle a mise en place. Avec sa collègue designer sociale, elle a travaillé avec des enfants et des adultes sur un long temps. Pendant 6 mois, elle a rencontré chaque classe et analysé l'espace de la cour avec les commentaires des enfants.
Donc vous leur posez la question, d'après toi, c'est quoi être à égalité ? Première question, madame, c'est avoir les mêmes droits. Très bien. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire quelque chose. Dans la question de l'occupation de droits. Ok ? Très bien. Donc, avoir les mêmes droits, comment ça se traduit ? Qu'est-ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire à la récréation ? Voilà. Comment ça se passe, vous, dans votre récréation ? Ah oui, non, mais les garçons, ils disaient, oh, nous, on n'a pas le droit de jouer au foot. Ah, tout ça, il me semble qu'on avait dit que être à égalité, c'était avoir les mêmes droits. Donc, qu'est-ce qui... Voilà. Et là, il va falloir construire ça pour que tout le monde se relégitime. Parce qu'attention, partager, c'est apprendre à négocier. C'est juste dire, j'ai le droit, toi aussi, qu'est-ce qu'on va faire de ça, là, maintenant? Non seulement j'ai le droit de jouer avec toi, figure-toi, au jeu que tu proposes, mais j'ai le droit de proposer mon jeu, en plus. Donc, mais c'est aussi, et ce qu'on voit très peu, c'est partager, c'est aussi laisser sa place, hein. C'est renoncer. C'est ok. C'est vrai. T'as le droit, mais je te laisse. Tant pis, jouons à la prochaine récréation. Voilà. Donc, on est sur quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que c'est être à égalité? C'est avoir les mêmes droits. Très bien. Donc, dans la réponse qu'elles me font, nous, madame, on n'a pas le droit de jouer au football. Puis plus tard, quand elles seront au collège, elles me diront, nous, on n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Nous, on n'a pas le même droit que les garçons. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles me disent pas que dans le texte, dans le législatif, elles n'ont pas le droit. Elles me disent qu'elles n'ont pas la même égale liberté. Parce qu'entre eux, j'ai le droit de faire quelque chose. Parce qu'elles me disent pas qu'elles veulent pas, là. Parce que partager l'espace, c'est concevoir qu'il y ait des espaces où il y a des grands jeux, des espaces où on se pose, où on est au calme. Pour les enfants autistes, pour tous les lecteurs et les lectrices. Parce que dans 2 heures de récréation, on peut avoir envie de se poser avec un bouquin, et de taper dans un ballon, ou de courir.
Edith Maruet-Joule est aussi amenée à demander aux enfants comment ils et elles ressentent leurs espaces, où ils et elles projettent les filles et les garçons dans l'espace de la cour, ou encore comment ils et elles spatialisent les activités. Dans ces temps de parole, les enfants arrivent souvent à la même conclusion. Les filles et les garçons ne se répartissent pas de la même manière dans la cour, les filles contournent les espaces centraux, et le préau est surpeuplé, et les espaces végétalisés sont plus mixtes. À cette étape, il est essentiel de sensibiliser à la fois les enfants, mais aussi les adultes. En effet, les adultes sont centraux dans le dispositif car ils garantissent les repères et l'objectif de mixité pour que tout ce travail fonctionne.
Après les temps de discussion, la deuxième étape est de travailler sur l'espace. Dans ses missions, Edith Maruet-Jules propose de réaménager l'espace de cours avec une première phase temporaire d'expérimentation. Ces remodelages se jouent à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, les itinéraires des enfants dans la cour. La matérialisation de ces itinéraires, de rendre visibles des parcours et des cheminements, permet d'investir des espaces centraux qui sont souvent vidés ou occupés par un terrain de foot. Les filles, qui jusque-là avaient des mobilités de bord et en général justifiées avec un but précis, c'est-à-dire d'un point A à un point B, peuvent aussi apprendre à flâner. Et par ailleurs, l'apparition de ces itinéraires permet aussi de créer des passages visibles qui assurent une meilleure accessibilité aux enfants à mobilité réduite. Après la question des itinéraires, Edith Maruet-Jules propose une transformation des espaces en espaces esthétiques, décorés et végétalisés. Pour ça, elle met à contribution les enfants, ce qui permet d'éviter l'imposition par les adultes de ce à quoi est censé ressembler une cour de récréation. L'objectif est aussi une meilleure appropriation de l'espace par ses premiers usagers et usagères.
On peut aussi jouer sur des zones d'intensité différentes. Edith Maruet-Jules propose une cour avec 3 ambiances. Une avec des activités dynamiques, une intermédiaire semi-calme et une calme dédiée notamment à des activités solitaires comme la lecture. Chacun de ces espaces est régi par des règles propres. Entre ces espaces d'intensité différentes, s'est posée la question des frontières. Elles ont été pensées pour être les plus fluides possibles. Elles prennent donc la forme de bancs ou de tables d'échecs, ce qui permet de créer des espaces de discussion et de rencontres entre les enfants. On peut aussi créer des frontières avec des pots de fleurs dans une idée de végétalisation de l'espace. Enfin, on a insisté plutôt sur la place importante des adultes qui ont un rôle moteur dans la pérennisation des changements. Mais malgré ça, il s'est aussi posé la question de la surveillance constante des adultes. Edith Maruet-Jules imagine aussi des espaces où les enfants ne sont pas toujours regardés, surveillés, ce qui permet de créer un lien de confiance avec l'adulte.
Après avoir réfléchi sur l'aménagement de la cour, vient la réflexion sur les activités qui vont s'y dérouler. Les différentes intensités d'espace évoquées juste avant permettent une diversité d'activités. Jeux collectifs dans les espaces dynamiques ou lecture dans les espaces calmes. Dans son livre, Edith Maruet-Jules propose une diversité d'activités dans le temps avec des jeux différents le matin et l'après-midi. Elle propose par exemple une roue qui tourne, un peu comme au loto, sauf que celle-ci permet de déterminer aléatoirement quelles vont être les activités de la récréation. Cette roue permet d'introduire de nouvelles activités plus mixtes, des jeux de ballon en tout genre, mais aussi de la danse avec de la musique ou des jeux de course. C'est aussi une manière de s'assurer que les enfants ne s'enferment pas toujours dans une seule et unique activité, comme le foot ou le coloriage, mais qu'ils et elles explorent différents jeux et activités. D'ailleurs, on n'interdit pas de jouer au foot, mais sur des espaces plus petits, moins centraux et pas à toutes les récréations. Le rôle du personnel périscolaire est déterminant puisque cette roue implique un encadrement et une animation systématique par un ou une adulte.
Après les expérimentations, qui durent généralement un mois, on observe déjà les nouvelles dynamiques. Dans son livre, Edith Maria Jules constate globalement que les espaces non mixtes sont moins nombreux et moins immédiatement visibles. Les activités dites « pour les filles », comme le dessin ou la lecture, sont plus mixtes et permettent justement à des garçons que ça intéresse de les rejoindre. Le déplacement du terrain de balle sur le côté de la cour permet de faire de la place à de nouveaux jeux collectifs ou à de la danse, par exemple. Et ensuite, la matérialisation d'itinéraires ou de tracés au sol offre de nouveaux usages et de nouvelles libertés dans les déplacements. Et enfin, l'installation des plantes peut très bien fonctionner car dans des cours qui sont entièrement bétonnés, la végétalisation permet aussi aux enfants de s'abriter en cas d'intempéries. Bref, il existe plein de moyens de réinventer la cour pour réunir les enfants. Pour finir, la cour n'est évidemment pas le seul espace où en est de la mixité. Il en est un autre qu'Edith Maria Jules a approfondi largement dans son travail, ce sont les toilettes.
Mais du coup, si je comprends bien, votre postulat, c'est de dire que le fait de créer la relation, de créer la mixité, c'est ce qui va aboutir au final à faire refluer les violences.
Bien sûr. Démonstration, les toilettes. On a fait un bloc fille, un bloc garçon, ouf, c'est bon. Premier lieu des violences, les toilettes. Premier lieu de harcèlement scolaire. Problème de santé publique. Donc, et on se dit, ah, mais c'est bon, tout va bien. Ça n'a fait rien varier, rien. Ni les agressions en milieu scolaire, ni la question du cyberharcèlement, ni la question du revenge porn, ni, enfin, toutes ces... Au contraire, et on dit, oh, ça explose, mais pardon, enfin, non, en fait. C'est juste pas travailler, quoi. De toute façon, ils y vont pas. 8 sur 10, c'est vite d'aller aux toilettes. Ça, c'est une question de bon sens. En fait, comment cette catégorie de filles-garçons et femmes-hommes, elle va masquer toute la pertinence d'une étude, d'une approche sociologique. Pour aller jusqu'au bout, donc il faut comprendre, parce qu'il y a d'autres notions. Il y a aussi des notions, pourquoi un endroit est insécure, c'est parce que c'est un endroit à impunité, c'est tout. Si vous n'êtes pas puni quand vous faites quelque chose, vous le faites. Il faut bien sûr casser l'impunité, garantir l'intimité, hein, ce qui n'est jamais fait, voilà. Si on parle par exemple de l'espace des toilettes. Et déjà là, on peut se dire qu'on peut penser la mixité. Et qu'on se rend compte que d'ailleurs aussi les violences, et peut-être les violences même symboliques, les violences des corps, c'est peut-être une différence entre être petit et être grand à cet âge-là. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que quand on en parle, c'est « oui, mais j'ai peur des grandes, j'ai peur des grands ». Et on fait quelque chose qui est neutre, voilà, qui garantit le fait qu'on ait une expérience qui soit protégée quand on va aux toilettes. On fait des trucs corrects, ou par exemple, on garantit l'intimité des garçons, hein. Par exemple, la question de l'urinoir, ça a été une question. Mais c'est à quelle heure ce pays a consenti que les garçons n'avaient pas de pudeur ? Il faut faire un lieu où quand vous passez devant, et vous passez et vous projetez le regard à l'intérieur. Mais pour pouvoir faire ça, d'abord, il faut ouvrir les toilettes, il faut ouvrir le bloc, il faut sortir les urinoirs. Puis après, on essaye. Ça ne marche pas, on refait un toilette fille, un toilette garçon. Toutes les expériences que j'ai menées, tous les établissements qui ont joué le jeu sur la question des toilettes mixtes, élémentaires et collèges, ne sont jamais revenus dessus. Jamais. Et ça se suit, ça s'évalue. Et d'ailleurs, les gamins, d'abord, et non seulement ça, mais en plus, vont me dire, j'ai plus de problème aux toilettes. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans la mixité ? Mais dans la mixité, et c'est la question de la relation, les limites, ses propres limites, les limites du monde de l'autre, c'est aussi et surtout des limites de corps physique. Donc ça veut dire que dans ma rencontre des corps, en fait, je rencontre la limite du corps de l'autre. Donc je laisse propre pour l'autre corps social, symbolique. Pourquoi je me rends compte de ça ? Parce qu'un jour, sur des toilettes mixtes qu'on avait travaillées, il y a un journaliste, un jeune d'ailleurs, qui va faire l'interview, qui va, c'est en collège, hein, donc il y a un toilette, un bloc 4e, 3e et un 6e, 5e. Donc. Il va voir un 4e, un garçon, et lui dit, il pose cette question, il l'assume, hein, il lui dit, comment vous faites pour vous retenir ? Il utilise ce vocabulaire. Et le gamin est outré. Il lui dit, pardon, quelle est votre question là ? Il lui dit, on connaît quand même nos limites. Et c'est là que je me rends compte de ça. Je m'évertue à justifier la mixité. parce qu'il faut. Mais ma vraie question, la vraie question adulte qu'on doit se poser, je pense, sur ces questions-là, par rapport à cette question de la nature, qu'est-ce qui justifie les toilettes non mixtes? À quel moment, en fait, personne ne voit le symbole quand on dit à une petite fille de 6 ans qu'elle ne peut pas se mélanger avec un petit garçon de 6 ans dans un bloc sanitaire? Je rappelle quand même qu'on part de chez nous, mon domicile, où j'ai pas d'urinoir, où mes toilettes sont mixtes, où je partage avec ma fratrie. Mais qu'est-ce qu'on signifie aussi à ce petit garçon? On lui dit quoi? Tu es dangereux pour tes camarades? Parce que il y a quelqu'un ici qui croit que les gamins, ils n'ont pas le signifiant? Personne. Cette violence fille-garçon, ou présupposée, ou en tout cas ce qui peut être conflictuel dans la relation fille-garçon, on pense que ça n'influence pas la relation fille-fille, garçon-garçon? On a parlé des corps, de la limite du corps de l'autre. On parle des agressions garçon-garçon et fille-fille. À quoi pensons-nous? C'est ça que je trouve vraiment important. En fait, sous tout ce travail-là, il est pour nous aussi de développer un esprit critique et de remettre du sens dans son métier. Et quand j'ai expliqué ça à quelqu'un qui construit des blocs, à l'architecte d'abord, qui dessine, et que je lui explique in situ, je lui dis, regardez, voilà, là, vous m'avez fait un couloir, un truc engouffré, on ne peut pas regarder. Je lui explique tout ça. Et ça parle à tout le monde, en fait. C'est vraiment la question de, à un moment donné, penser aussi la mixité, la catégorisation, penser ce qui se jouait et ce qui ne se joue plus, ou qu'est-ce qui se rejoue dans cette question-là, et qu'on puisse ensemble toujours créer de l'intelligence collective et du projet.
Depuis le début, la mixité est au cœur de notre propos. La mixité à construire, à animer, pour que les filles et les garçons apprennent à se connaître et à se respecter. La mixité comme moyen de faire reculer les violences, la mixité comme solution, comme par exemple les toilettes mixtes que promeut Edith Marie-Jules dans son travail. Des toilettes mixtes mais séparées par âge pour faire reculer le harcèlement des plus grands envers les plus petits et avec des portes fermées garantissant l'intimité des enfants. Mais est-ce que la mixité permanente, animée, a certaines limites ? Chez Féminicité, association mixte, on a eu envie d'interroger cette notion centrale qui nous semble finalement peu questionnée.
Déjà, parce que dans le mot mixité, il y a l'idée d'entités différentes qu'on mélange, en l'occurrence ici, les filles et les garçons. On vous rappelle que la définition du Larousse qu'on indiquait en intro évoquait, je cite,
« les personnes des deux sexes ».
La mixité, d'une certaine manière, c'est penser la binarité. La sociologue Gabrielle Richard a montré dans son travail que l'école restait non seulement un lieu d'intériorisation très fort de la binarité de genre, des codes de comportement, des normes physiques stéréotypées associées au masculin ou au féminin, mais aussi de l'exclusion de tout ce qui n'en est pas conforme. Et donc que les dynamiques sociales à l'école reposent sur le postulat que chacune et chacun s'identifie clairement soit fille, soit garçon, et généralement dans le genre assigné à la naissance. Et au-delà, Gabrielle Richard montre comment l'école est même un espace d'apprentissage de l'hétéronormativité, c'est-à-dire de la norme qui est censée être l'attirance réciproque entre filles et garçons. Par exemple, en faisant des vestiaires ou des toilettes séparées en fonction du genre, car on juge que la proximité des corps pourrait déclencher des comportements violents des garçons envers les filles, notamment à connotation sexuelle. Mais en gros, Gabrielle Richard montre que l'école est un espace de formatage de personnes présupposées, binaires, cisgenres et hétérosexuelles. Et cette notion de mixité qu'on évoque dans l'épisode, elle souscrit à ce modèle, à cette vision. Une vision où il y aurait des enfants clairement filles ou garçons avec des comportements stéréotypés. Mais alors, quid des enfants LGBTQIA+, et plus largement des enfants en questionnement sur leur identité? Parce que des questionnements sur qui l'on est, les enfants peuvent les avoir très tôt. Et là, on ne résiste pas à l'envie d'évoquer le film documentaire « Petite fille » de Sébastien Lifshitz, qui témoigne de la vie de Sacha, une petite fille trans, et du combat de sa mère face à l'institution scolaire, qui refuse d'accueillir son enfant autrement qu'en garçon.
Alors, évidemment, notre propos ne vise absolument pas à revenir sur la mixité dans les établissements scolaires, mais plutôt à interroger la construction de cette valeur cardinale, et ce qu'elle signifie et ce qu'elle implique. Et puis, de souligner la nécessité de penser l'inclusion des enfants en construction, de dépasser une notion binaire de comportement de filles ou de garçons, et de réfléchir à l'accueil adapté des enfants LGBT et de celles-eux en questionnement.
In fine, c'est inviter l'institution scolaire à veiller à ce que l'école ne soit plus un espace où les enfants sont obligés ou se sentent obligés de se conformer parfois dans la violence, parfois contre leur envie à des normes de genre. Cela implique évidemment de former les adultes, les enseignants, les surveillants, les personnels d'établissement aux enjeux de sexisme et aussi de LGBT-phobie. Et de faire la même chose auprès des enfants, régulièrement et à tous les âges. Et puis, en tant que collectif militant, on s'est aussi posé la question, est-ce que la non-mixité, ponctuelle, ne pourrait pas non plus être un outil?
Alors, vous me direz que la non-mixité existe déjà dans certains espaces scolaires, comme les toilettes ou les vestiaires. Et on disait justement que ces espaces étaient souvent des espaces d'angoisse, de harcèlement, voire de violence physique. Mais ils le sont aussi parce que dans ces espaces, la non-mixité peut être subie. Ici, nous parlons d'espaces où la non-mixité est un choix des personnes qui y prennent part. On parle d'ailleurs souvent de non-mixité choisie. Si on prend la définition universitaire du terme relayée par l'Université d'Angers, je cite
« La mixité choisie est le fait de se réunir entre personnes appartenant à un ou plusieurs groupes opprimés et discriminés, en excluant la participation de personnes appartenant aux groupes pouvant être oppressifs et discriminants, par exemple entre femmes ou minorités de genre, mais sans hommes cisgenres. »
Et la même définition précise également
« Ces pratiques sont ponctuelles et ne s'opposent pas à l'existence d'autres temps et lieux d'échange mixtes. Il s'agit d'un outil et non d'une fin en soi. »
Est-ce que c'est un gros mot ? Imaginer une étape pour que les enfants puissent prendre confiance, diversifier les modèles et accéder à la visibilité ? Et ensuite, dans un deuxième temps, retourner aux espaces mixtes en étant confortés pour croiser les points de vue ? Penser dans le cadre de l'école, la non-mixité choisie temporaire peut permettre à certaines personnes de prendre la parole, d'exprimer des besoins, des intérêts ou des points de vue considérés comme illégitimes ou secondaires et d'accéder à la visibilité. L'aménagement d'espaces ponctuels en non-mixité choisie implique deux choses. Déjà, c'est qu'elle est choisie, justement. Elle implique à la fois que les enfants, et en particulier les filles, aient du recul pour demander à l'école la formation de ces espaces, et donc d'être sensibilisés aux enjeux de discrimination sexiste et d'en comprendre les mécanismes. Et d'autre part, il faut que l'école soit prête et capable d'animer ces espaces avec à nouveau des adultes formés sur la question.
Alors, la conclusion de cet épisode très dense, c'est l'immense chantier qui attend l'éducation nationale, les architectes et designers qui créent les écoles, les adultes qui travaillent dans les établissements pour revoir les espaces de cours, les animer et éveiller les consciences. Le sujet des cours d'école égalitaire peut sembler relativement neuf, mais les chercheurs et professionnels français et étrangers qui défrichent le terrain depuis de nombreuses années ont déjà produit de nombreux contenus, méthodes et outils qui sont relativement complets. Outre le travail d'Edith Marie Jules avec la robe, on tenait à citer le cabinet franco-espagnol Equal Sari qui a sorti en janvier dernier un guide méthodologique à l'usage des collectivités et des établissements pour mettre en place des cours d'école inclusives. Ce travail de long cours est une course de fond. On a évoqué la réorganisation de l'espace, l'animation, la sensibilisation. Aménager une cour égalitaire, c'est changer ses habitudes, revoir sa vision de l'espace et de l'encadrement des enfants sur le long terme, avec un investissement régulier, dès maintenant et pour un horizon indéfini, afin de véritablement faire bouger les lignes. Cet engagement continu, il est aussi à suivre, à soutenir. Des acteurs très différents ont leur rôle à jouer. Aujourd'hui, si quelques établissements ou collectivités se lancent dans l'aventure, elle reste un nombre très limité. Et l'évocation de cours égalitaires ou d'égalité filles-garçons continue malheureusement de susciter de trop nombreuses réticences.
Une autre piste qui peut aussi être explorée, moins clivante peut-être, est le programme des cours d'école Oasis. Ce programme vise à végétaliser certaines cours très bétonnées. La végétalisation permet de faire chuter la température ressentie, de créer des espaces plus conviviaux et moins arides que des plateaux en béton. Peu à peu, la composante genre est entrée dans le design de ces nouvelles cours. Plus de terrains de foot occupant la quasi-totalité de l'espace disponible, mais des espaces beaucoup plus ouverts, comme des murs ou blocs d'escalade ou des jeux semblables à ce que l'on peut trouver dans les parcs en extérieur. Tiens, il semble que les perspectives écologiques et féministes puissent se conjuguer pour continuer de repenser la manière de faire société à hauteur d'enfants, y compris à l'école.
Merci de nous avoir suivis dans cet épisode sur les cours d'école égalitaires qui s'inscrit dans notre série sur les espaces inclusifs. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en pensez et même à nous rejoindre si vous souhaitez creuser le sujet. On vous retrouve dans quelques mois pour un nouvel épisode. À bientôt !